éduquer les enfants aux trois blancheurs et à la prière pour l'unité. En ce troisième enseignement, qui ne contiendra qu'une toute petite partie concernant l'éducation de vos enfants, nous voudrions vous aider à mieux assimiler encore l'esprit œcuménique de Vatican II, selon l'interprétation la plus autorisée, celle de notre grand pape Benoît XVI. Première partie d'abord, mieux comprendre la distinction Église universelle, Église particulière. L'Église universelle est, pour le cardinal Ratzinger, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Cette Église, ontologiquement, selon les Pères, précède la création et donne naissance à des Églises particulières comme à ses propres filles. Elle s'exprime en elle, elle est mère et non produit des églises particulières. En outre, chronologiquement, l'Église se manifeste le jour de la Pentecôte dans la communauté des 120 réunis autour de Marie et des 12 apôtres, représentants de l'unique Église et futurs fondateurs des églises locales qui ont une mission tournée vers le monde. Dès ce moment, l'Église parle toutes les langues. Ce texte lumineux avait été donné par le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la doctrine de la foi, dans le texte Communionis Notio, numéro 9, notion de communion. L'Église universelle a donc une réalité historique. Elle est l'Église de Pentecôte et cette Église subsiste dans l'Église catholique, c'est ce qui est affirmé au numéro 8 de Lumen Gentium. Les Églises particulières, quant à elles, sont des portions du peuple de Dieu confiées à un évêque. Le fondement d'une Église particulière est donc l'évêque. La liturgie et la tradition nous permettent de mieux comprendre cela. L'évêque porte un anneau qui signifie qu'il est comme l'époux de l'Église particulière. Le pape est appelé le vicaire du Christ, mais chaque évêque pour son diocèse est aussi le vicaire du Christ dans son diocèse. La relation Église universelle-Église particulière est le nœud du mystère. Si l'Église universelle précède ontologiquement toutes les églises particulières, cela signifie que ces dernières ne peuvent pas exister sans l'Église universelle, à l'image de notre corps qui précède ontologiquement tous ses organes et tous ses membres. Ainsi, les églises particulières de Viviers, Sens, Auxerre, Marseille, Lyon, Rennes, Nice, Strasbourg, Toulon sont des portions de l'unique Église catholique. En ces églises particulières, c'est toujours l'Église universelle qui vit et agit et qui préexiste ontologiquement à ces églises particulières. Prenons un autre exemple pour mieux comprendre. Comment pouvons-nous affirmer que l'Église universelle fondée par Jésus est présente et agissante dans la liturgie que nous avons célébrée en ce dimanche? Tout simplement par la communion à l'évêque du lieu qui est l'ordinaire, l'évêque de l'Église particulière dans laquelle nous avons célébré cette messe, et par la communion avec le pape, le serviteur de l'unité de l'Église universelle. Le cardinal Ratzinger expliquait bien cela dans le numéro 13 de Communionis Notio. L'évêque est principe et fondement visible de l'unité de l'Église particulière confiée à son ministère pastoral. Mais, afin que chaque Église particulière soit pleinement Église, c'est-à-dire présence particulière de l'Église universelle avec tous ses éléments essentiels, et constitué par conséquent à l'image de l'Église universelle, l'autorité suprême de l'Église, c'est-à-dire le collège épiscopal avec...